Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Avec Jérôme Florin.
RTL, il est 7h48 et votre invité Jérôme Florin aujourd'hui, François Calfon, conseiller régional PS d'Île-de-France, directeur de campagne du candidat à la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg.
Bonjour François Calfon.
Bonjour.
Jacqueline Sauvage, condamnée à 10 ans de prison pour avoir tué son mari violent, est donc libre depuis hier soir, graciée totalement par François Hollande. Votre réaction?
Écoutez, déjà, c'est le cœur qui parle, mais c'est une très bonne nouvelle. Je pense à cette femme qui a dormi en prison alors qu'elle a subi des violences, qu'elle avait été condamnée à 10 ans. Donc je ne peux qu'avoir cette réaction, de soulagement.
Et cette grâce a-t-elle trop tardé?
Écoutez, je pense que c'est quand même pas un acte anodin, hein, compte tenu de ce qu'est la séparation des pouvoirs. Le président de la République a réfléchi, il a pris un acte en conscience, donc je pense que c'est la bonne décision. Vous voyez que par ailleurs, celle-ci fait l'objet de discussions de la part des syndicats de magistrats. Mmh. Donc on peut finalement considérer qu'un président de la République qui décide d'une décision aussi grave et positive le fasse en conscience.
Ces magistrats, ils ont raison de dire que c'est une atteinte à l'indépendance de la justice.
Écoutez, ça a toujours existé, hein, cette grâce présidentielle, c'est un des faits du président. On peut en discuter, je constate, en ayant lu vos confrères ce matin, à quel point l'opinion trouve que c'est un acte presque humanitaire, hein, et qui rejoint une cause très forte du combat contre les violences faites aux femmes.
Mais François Hollande, lorsqu'il dirigeait le Parti Socialiste, voulait abolir ce droit de grâce. Il y a ce qu'on dit avant et ce qu'on fait quand on est.
Il vaudrait mieux être cohérent. Et en l'occurrence, nous ne remettons pas nous-mêmes, je parle d'Arnaud Montebourg, finalement en cause ce droit de grâce présidentiel. Maintenant, est-ce que la Ve République et le président de la République élu au suffrage universel est une fonction qui recouvre une certaine dimension de monarchie républicaine qu'il faut dépasser? Assurément, il faut dépasser un certain nombre de faits. J'en donne un exemple, qu'Arnaud Montebourg porte dans son programme, celui des nominations finalement de convenances, de circonstances dans les organismes culturels ou audiovisuels.
Ça a toujours existé.
Oui, bah, d'accord, mais ce n'est pas parce que ça a toujours existé qu'il ne faut pas changer la donne. C'est quelque chose qui est tout à fait insupportable, me semble-t-il. Il y a d'autres évolutions institutionnelles qu'on connaît bien, que Manuel Valls, un peu pyromane pompier d'une certaine manière, a remis au goût du jour. Je pense au 49 alinéa 3, cette espèce d'article de violence institutionnelle qui est l'apanage d'une démocratie qui n'est pas tout à fait mature et qu'il faut à l'évidence dépasser. Ce sera l'un des enjeux de cette primaire pour l'élection présidentielle.
Alors justement, parlons du programme d'Arnaud Montebourg. Il vient de le publier sur son site. Il veut abroger la loi travail.
Bah, écoutez,
et comment défaire ce qui a été fait?
Bah, ça, c'est quand même, vous avez vu qu'il y a quand même un fort mouvement populaire et ça a été fait, on vient d'en parler, non pas par la volonté du corps législatif, mais par une violence institutionnelle, l'utilisation du 49 alinéa 3. Je pense qu'une loi qui doit finalement légiférer sur la question des rapports au travail entre les salariés et les entrepreneurs, elle doit quand même être née sur la base d'un minimum de consensus et non pas de confrontation. Qui souhaite aujourd'hui une confrontation dure entre les dirigeants des entreprises et leurs salariés? Il faut donc reprendre le travail à la base et c'est pour ça qu'il faut abroger la loi El Khomri.
Abroger, c'est-à-dire que sur le temps de travail, par exemple, désormais ce sont les accords au sein des entreprises qui priment sur les accords de branche. Ça, c'est fini si Arnaud Montebourg arrive au pouvoir?
Écoutez, je pense qu'il faut au moins que les branches professionnelles puissent se prononcer. Et puis, puisqu'on entend beaucoup de choses sur le temps de travail, remettons les choses finalement au clair ce matin. La question du temps de travail, dont le temps effectif n'est pas de 35, mais plutôt de 39 heures en France, c'est la question de la rémunération des heures supplémentaires. Ceux qui disent comme ça, il faut abroger les 35 heures, c'est une sorte de flou artistique qui recouvre quoi? Le fait de ne pas payer davantage les heures supplémentaires dues aux salariés. Vous savez, quand on prononce les choses avec cette clarté-là, c'est ce qui s'est passé avec la loi El Khomri, ce qui en principe pourrait être pour la flexibilité, eh bien, quand ça s'applique à eux-mêmes, ont un choix différent.
Alors, dans la loi travail, il y a également la garantie jeune. Ça, vous le supprimez également?
Non, mais enfin, il y a des choses dont il faut discuter. On reprend la base.
C'est une allocation mensuelle pour les accompagner vers l'emploi.
Mais vous savez, tout ce qui pousse à l'emploi durable des jeunes, qui lutte contre les discriminations dont un certain nombre de jeunes dans les territoires sont l'objet, doit être finalement encouragé. Il est évident que le bébé, l'eau du bain, il n'y a pas à poser finalement une sorte de tampon et s'opposer à tout ce qui est bon.
Vous abrogez, mais vous garderez certains points.
Non, on reprend à zéro. Hein, on reprend à zéro. Et sur les points qui ont fait contestation, pour que nos auditeurs aient bien l'esprit clair, ceux-là seront purement et simplement supprimée.
Dans son programme, Arnaud Montebourg veut aussi encadrer la rémunération des grands patrons. Alors ça, c'est quand même pas la première fois qu'on en parle, c'était même dans le programme de François Hollande.
Oui, mais alors pourquoi on l'a pas fait? Alors là, typiquement, la question, c'est que quand on pose une candidature, il faut être ferme sur ses positions, dans sa cohérence, dans ses valeurs.
Parce que c'est souvent peut-être non, mais je vais vous dire une chose, de
cette
parler
histoire, dans une campagne. C'est pareil, j'ai pas envie de parler des principes, mais parler aux Français. Mmh. Est-ce qu'il est normal qu'un certain nombre de patrons de grosses entreprises aient plus qu'à 1000 à 2000 fois la rémunération d'un SMIC, décident de finalement s'augmenter alors qu'ils appliquent la modération salariale? Il faut une loi, ça n'a que trop duré, cette espèce d'autorégulation de la FEP. Ça veut dire quoi? Vous laissez rentrer un renard dans un poulailler et on voit ce qui se passe. Le renard mange les poules, c'est aussi simple que ça. Il faut donc une loi pour faire en sorte qu'il y ait un encadrement des rémunérations choquantes et excessives. On l'a vu encore récemment dans le cas d'un grand constructeur automobile. Je parle des étrennes de Carlos Ghosn.
Carlos Ghosn, ça veut dire le patron donc de Renault-Nissan qui ne touchera plus 15 ou 16 millions d'euros par an si Arnaud Montebourg est président.
Eh bien, écoutez, en tout cas, s'il veut toucher, parce que la proposition d'Arnaud Montebourg, c'est un, qu'il y ait une loi, qu'on arrête l'autorégulation, ça ne marche pas. Et deux, que quand celui-ci voudra une augmentation, alors il faut qu'il l'applique à ses salariés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé chez Renault?
Donc je m'augmente de 5%, mais j'augmente les salariés également de 5%.
Tout à fait, parce que si vous voulez, ça n'a que trop duré. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé chez Renault? Si on a sauvé des usines en France, c'est parce que les salariés se sont imposés quoi? Plus de temps de travail, pour pas plus de rémunération, de la modération salariale. Est-ce qu'il est normal que dans ce pacte, qui doit réunir l'ensemble de l'entreprise, il y ait une personne qui finalement ne s'applique pas les règles qu'il applique à ses salariés, ce soit finalement le président de l'entreprise, quel que soit son talent, et Carlos Ghosn a du talent.
Arnaud Montebourg, toujours partisan du Made in France, il veut réserver 80% des marchés publics aux PME françaises. Pendant 8 ans, en fait, le temps que la France se réindustrialise, aujourd'hui c'est 25%.
Et vous savez,
comment vous allez arriver à 80%?
Alors, comment on va faire? On va avoir de la volonté politique. Savez-vous qu'avec les mêmes règles européennes, en Allemagne, c'est 50%. 50%. Et savez-vous que certaines régions françaises, l'Aquitaine, maintenant on appelle ça la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, sont précisément à 80%. Est-ce que le cadre juridique est différent? Non, simplement, ils ont alloti, ils ont mis des clauses de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et tout ça, ça fait finalement de l'emploi dans les territoires pour les PME qui, au lieu de fermer leurs portes, créent de l'emploi. Donc c'est tout à fait possible en l'état du droit. C'est une affaire de volonté politique.
Le MEDEF dit que c'est pas possible. Il faudrait des PME capables de construire des Rafales, des porte-avions, des hôpitaux, ce qui n'est pas le cas.
Parce que vous croyez que dans les mairies, on commande des Rafales. Non, je crois qu'il y a une petite erreur. Dans les mairies, on commande un certain nombre d'objets, de fournitures, de ronds-points. J'en passe, c'est des meilleurs.
Mais dans les dépenses publiques, il y a aussi les dépenses pour la défense.
Ça, j'entends bien, mais c'est cette histoire des 80% est tout à fait possible dans l'état du droit. Alors, est-ce que plus largement, le MEDEF considère que la relance de l'investissement public n'est pas possible? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un certain nombre d'organisations économiques qui disent qu'il faut finalement 50 milliards d'investissements publics pour faire une certaine relance. Tous les grands pays intégrés, que ce soit le Japon, les États-Unis, j'en passe et des meilleurs, effectue cette relance. Et finalement, que fait Arnaud Montebourg? Il propose une relance de 30 milliards d'euros, dont 10 milliards reprises sur le CICE. C'est tout à fait raisonnable. Vous voyez, la candidature de Montebourg, elle n'est ni dans la soumission au marché, au dogme de Bruxelles ou celui du MEDEF, ni dans l'incantation. Il y a une voie, celle de la conviction raisonnable.
François Calfon, est-ce qu'Arnaud Montebourg a remboursé ses 50 000 euros au groupe socialiste?
Alors vous savez, pour rembourser de l'argent, il faut que ce soit dû. Or, le groupe socialiste par la voix finalement de son président Olivier Faure, le parti socialiste par la voix de Thomas Clay, le président de la Haute Autorité, on dit que cette somme n'est pas due.
Donc je veux bien puisque l'Opinion a publié une lettre il y a quelques jours que j'ai ici qui est signée du trésorier du groupe socialiste qui donc dit que Arnaud Montebourg n'a pas payé la totalité de ses cotisations mensuelles.
C'est simple, on peut toujours rembourser des sommes imaginaires. En l'occurrence, cette lettre a été exhumée il y a plus de 10 ans. Moi, j'appelle ça plutôt une boule puante qu'autre chose.
2011,
en ce qui concerne
22 juin 2011.
Entre-temps, il a déjà été candidat à une primaire et cette somme ne lui était pas due. Donc miraculeusement, ressort des tréfonds de l'histoire une lettre opportunément sortie par monsieur Bataille, l'un des soutiens de monsieur Valls, et puis on essaie de monter une affaire. Vous voyez, tout ça a fait pchit comme on dit, puisque ni le groupe socialiste ni le parti socialiste ne réclament cette somme, elle n'existe donc pas.
Voilà, c'est dit. François Calfon, directeur de campagne d'Arnaud Montebourg. Merci d'avoir été notre invité. Bonne journée.